Bonjour et bienvenue à tous ici au Collège de France où nous avons le très grand plaisir et le grand privilège d'accueillir le professeur Watanabe Hiroshi de l'Université de Tokyo. Le professeur Watanabe est vraiment quelqu'un de très éminent. Pour ceux d'entre vous qui ne le connaissaient pas, je vais faire une brève présentation. Mais vraiment, je peux vous dire que c'est un grand honneur pour nous de l'avoir ici, d'autant plus que j'avais fait une première tentative il y a, je crois, 2 ans. Le professeur Watanabe, pour des raisons de santé, n'avait pas pu faire le voyage, mais donc là, nous l'avons en très belle forme et c'est vraiment une chance pour nous. Donc, le professeur Watanabe est né dans le Japon de l'immédiat après-guerre et il a été formé à l'université de Tokyo à la faculté de droit, où il a ensuite accompli la majeure partie de sa carrière universitaire. Il a reçu un diplôme de Bachelor of Arts, donc l'équivalent de la licence en 1969, et ensuite donc il a continué ses études et il a enchaîné donc ensuite sur une carrière d'enseignant pendant une trentaine d'années. Sa carrière l'a amené à être doyen donc de la faculté de droit à l'université de Tokyo. Et ensuite vice-recteur de l'université de Tokyo. Donc c'est vous dire à quel point donc le professeur Watanabe est une figure connue dans le monde universitaire japonais. Il a également été donc président donc du comité éditorial des presses universitaires de Tokyo. Et président de l'association japonaise de sciences politiques, parce que la science politique, on peut dire, est le domaine de prédilection donc du professeur Watanabe. Et pour moi, en fait, le grand intérêt de ses travaux, c'est que c'est également une très grande autorité sur l'histoire du confucianisme japonais. C'est un domaine qui est encore très largement étudié et aussi discuté dans nos milieux. Et c'est vraiment pour moi un privilège de pouvoir accueillir le professeur Watanabe ici à Paris, après avoir eu l'honneur de l'avoir comme discutant lors d'une conférence que j'ai donnée précédemment à la Maison franco-japonaise. Alors, le professeur Watanabe a été disciple du grand intellectuel public japonais, Maruyama Masao, dont je rappelle les dates, 1914-1996. Et donc, le professeur Watanabe est mondialement reconnu donc, comme un grand historien de la pensée politique du Japon prémoderne et moderne, et compte, comme je l'ai dit, parmi les meilleurs connaisseurs de la tradition intellectuelle confucéenne au Japon. Comme l'indique, je n'ai pas le temps de rappeler la liste de tous ses travaux, mais certains titres vous donneront un petit peu une idée justement des centres d'intérêt du professeur Watanabe, qui a commencé donc à publier ses œuvres majeures donc dès 1985 sur la société du Japon de la première modernité et le néo-confucianisme. Et ensuite, il y a eu plusieurs publications donc sur la pensée politique du Japon prémoderne et moderne, ainsi que de l'Asie orientale en général, parce que la vision du professeur Watanabe a ceci de particulier qu'elle ne se limite pas donc à une vision nationale, c'est-à-dire uniquement donc au domaine japonais, mais prend en compte également donc ce qui s'est dit sur la pensée politique en Corée et en Chine. Et de fait, un de ses ouvrages majeurs de 1997 sur la pensée politique de l'Asie orientale de la première modernité a été publié récemment en chinois en 2016. Et il faut signaler essentiellement donc l'œuvre majeure du professeur Watanabe, qui est une histoire de la pensée politique japonaise entre 1600 et 1901, donc publiée par les presses universitaires de Tokyo en 2010, livre qui a été traduit en anglais et qui a été publié donc dans cette version anglaise en 2012. Et qui a été également traduite en coréen tout récemment, donc en 2017. Alors, les sujets d'intérêt du professeur Watanabe, nous allons en avoir une idée dans les deux conférences qu'il nous fait l'amitié de nous donner. Donc, aujourd'hui, vous voyez le titre ici, donc la structure du genre et la sexualité donc, dans le Japon de Tokugawa, vendredi prochain, donc enfin ce vendredi, le 8 juin, à la même heure, dans la même salle, il y aura une seconde conférence donc sur ce que le professeur Watanabe appelle Tocqueville et les trois révolutions. France à partir de 1789, Japon à partir de 1867 et Chine à partir de 1911. Je note dans la liste des publications du professeur Watanabe une publication qui concerne l'origine, par exemple, du culte de l'empereur dans le Japon moderne. Vous trouvez également donc un article sur l'école de Motori Norinaga dans le Japon de Tokugawa. Vous avez également, ça c'est un article qui avait particulièrement retenu mon attention parce que c'est un sujet sur lequel j'avais eu l'occasion de travailler avec mon regretté collègue Joël Toraval, décédé récemment, sur la notion de public-privé, donc en japonais oyake et watakshi, donc, et en chinois donc kon et si, un sujet sur lequel le professeur Watanabe donc, a livré des réflexions extrêmement intéressantes. Et il a également travaillé donc, sur la pensée de Fukuzawa Yukichi, donc une figure de première importance donc, dans le Japon de la première modernité. Avant de donner la parole au professeur Watanabe, il y a au Collège de France rite qui consiste à accueillir nos invités avec la présentation donc d'une médaille du Collège de France. Merci. Pour vous souhaiter la bienvenue. Okay.
Et là, bien. Voilà. Merci. Bien.
Donc, professeur Watanabe, à vous la parole.
Merci beaucoup pour votre présentation. Bienvenue à ma conférence. Dans l'archipel japonais, le régime de Tokugawa, qui débute en 1600 et s'effondre en 1867, représentait la domination des guerriers, nommés généralement samouraïs, qui avaient remporté la victoire dans une guerre civile terrible qui avait duré plus d'un siècle. L'armée par laquelle les samouraïs s'organisaient forma tel quel le gouvernement. Les statuts acquis dans cette organisation se transmirent d'une manière générale aux descendants. La paix fut ainsi assurée pendant près de 1250 ans. La population de l'archipel dépassait au début du 18e siècle les 30 millions d'habitants et atteignait les 34 millions en 1867. Celle du Royaume de France vers 1750 était d'environ 24 millions. Un corps politique s'établissait ainsi à l'est de la Chine, bien plus grand que la France, alors pourtant le pays le plus peuplé de l'Europe. Chaque région du pays était gouvernée par plus de 200 gouverneurs de province qu'on appelle daimyo, seigneurs. Ces gouverneurs étaient eux-mêmes des samouraïs, et à travers les samouraïs qui étaient leurs vassaux, ils régissaient les bourgs et les villages. Le souverain de ces seigneurs n'était autre que le clan de Tokugawa, comme le montre son titre de shogun, le généralissime. Il dirigeait l'ensemble de l'armée. Tous les shoguns, tous les gouverneurs et tous leurs vassaux étaient des hommes. Dans le Japon de l'époque, existait une famille impériale qui s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui. Cette famille impériale se maintenait tranquillement dans l'ancienne capitale, Kyoto, comme un pouvoir antique bien qu'elle eût perdu toute puissance politique. Il y eut des empereurs femmes sous les Tokugawa, mais il n'y eut pas une femme parmi les shoguns et les daimyo. La politique était donc un monopole masculin. Pourquoi ? Bien sûr, ce n'est pas naturel, c'est culturel et politique. En Chine et en Corée, à la même époque, les dirigeants étaient également tous des hommes. Toutefois, la principale raison n'est pas la même qu'au Japon. À la différence du Japon de Tokugawa, le pilier du régime était le confucianisme. Pour ce dernier, tous les individus, y compris les femmes, étaient des êtres humains parce que la nature leur avait attribué une nature humaine. Cette nature était de nature morale, était juste et rendait possible la coexistence de tous. Par conséquent, si tous les êtres humains déployaient leur nature acquise à la naissance, le monde n'en serait en principe que meilleur. Mais ce n'était pas le cas en réalité. Il convenait que les meilleurs d'entre les hommes, entre les humains, ceux qui parvenaient à réaliser leur nature humaine, c'est-à-dire ceux pourvus de vertu, soit les dirigeants de tous les autres, tous les autres, les éduques et les guides. C'était eux, les dirigeants, les gouvernants. Telle était la conception confucéenne du pouvoir. Le confucianisme considérait également qu'il revenait au souverain, pourvu de la plus haute moralité, de choisir parmi les peuples des hommes éminents, même moins que lui, pour l'assister. Telle était la raison d'être du gouvernement. Ainsi, dans la Chine et la Corée de l'époque, existait un système pour sélectionner les fonctionnaires de haut rang par des examens écrits reposant sur l'éducation confucéenne, qu'on appelait Kechu, Kuago. Nombre de philosophes de la France du XVIIIe siècle, comme Voltaire et François Quesnay, enviaient ce système. Comme la nature morale est identique, quel que soit le sexe, une femme de haute volée pourrait en principe être le souverain. Mais les Confucéens ne pensaient pas ainsi. Ceci parce qu'ils croyaient que la vertu pour une femme consistait à servir son mari et les parents de celui-ci, ainsi qu'à élever les enfants. Ils estimaient qu'il était contradictoire pour une femme vertueuse de débattre en public ou d'exercer la justice. Cette conception est proche des principes moraux qui avaient cours en Europe. En Chine et en Corée, les hommes qui avaient reçu une éducation confucéenne revenaient en dirigeant la police et l'armée. Le système privilégiait les lettres, wen, sur les armes, wu. Le régime de Tokugawa, lui, n'était pas fondé sur le confucianisme. il n'existait pas non plus de système d'examen. On n'estimait pas davantage que les samouraïs étaient en charge du pouvoir parce qu'ils étaient vertueux. Leur manière de penser était, depuis la longue période de guerre civile, « Nous sommes les plus forts, alors obéissez. » Le contrôle du peuple s'attendant dans le temps, leur argument devint « C'est nous qui avons établi l'ordre et la paix régnant aujourd'hui. Celui qui s'oppose à nous est donc un criminel qui trouble l'ordre et la paix. » Il n'était pas différent des systèmes autoritaires qui ont acquis une stabilité aujourd'hui. La base la plus solide de la légitimité du gouvernement des samouraïs n'était donc ni d'origine divine, ni d'origine morale, ni élective, mais simplement la stabilité et la paix acquises de facto. Par conséquent, lorsque cette stabilité fut remise en cause dans les années 1860, le régime s'effondra très rapidement. La raison principale pour laquelle le gouvernement était limité aux hommes chez les samouraïs était, bien entendu, la présence exclusive d'hommes dans l'armée, comme toutes les armées de l'époque. En outre, on estimait que les samouraïs dominaient la société parce qu'ils étaient de vrais hommes, les hommes les plus virils, non des éducateurs, comme en Chine et en Corée. On peut penser qu'au début du règne de Tokugawa, au XVIIe siècle, les samouraïs représentaient pour la plupart des Japonais l'idéal masculin. Les vrais hommes étaient les guerriers, les militaires, les combattants, bref, tous ceux capables de déployer la violence et tuer. Même les hommes qui n'avaient pas la statue de guerrier, même la plupart des femmes, croyait que le meilleur des guerriers était le plus viril des hommes. La distinction sexuelle faisait partie intégrante du système pour désigner le souverain. Les guerriers pensaient que celui-ci était le meilleur homme d'entre eux, de ce fait en guerrier et de ce fait en capacité de gouverner. Un proverbe disait « La fleur de cerisier » et la fleur d'entre les fleurs. Le guerrier est l'homme d'entre les hommes. L'homme surpassait la femme et le guerrier surpassait les autres hommes, d'autres hommes. Rien n'était meilleur et plus magnifique qu'un guerrier. Il y avait une superposition complète entre l'ordre viril qui associait la force au courage guerrier et l'ordre social. Les supérieurs étaient de vrais hommes. Les inférieurs ne l'étaient pas. Puisqu'ils étaient les plus virils, les guerriers dominaient et contrôlaient les hommes qui ne l'étaient pas assez, ainsi que toutes les femmes. Cela était perçu comme naturel et constituait la base du gouvernement. Ces guerriers avaient une voix de guerrier, Bushido, qui encadraient leurs actions. On l'appelait également la voix de l'homme, Otokodo. Celui qui abandonnait le statut de guerrier pour se faire, par exemple, marchand, était désigné comme celui qui avait jeté sa virilité, Otoko Osteru, cessé d'être un homme, Otoko Yameru. Une telle structure de genre avait une implication sur la sexualité des guerriers. Par exemple, l'amour et relations homosexuelles, désignées sous l'expression nanshoku, étaient monnaie courante entre le XVIIe siècle et la moitié du XVIIIe siècle. L'amour homosexuel chez les guerriers était usuel entre les guerriers adultes et ceux dans leurs dizaines d'années. On désignait ces relations sous le terme de serment fraternel, kyōdai no chigiri. Les guerriers impliqués dans ces relations étaient amis jurés, nenyu. Il ne s'agissait pas que d'amour platonique. ces relations s'accompagnaient de commerce charnel, qui n'était vu ni comme un crime, ni comme quelque chose de honteux. Ainsi, nul ne ressentit le besoin de se décider à faire un coming out. Il n'y avait pas non plus de lien avec l'identité individuelle. C'était pour ainsi dire une question de goût. On y voyait en général un heureux typiquement guerrier et propre à Yu. Plusieurs shoguns ont eu des relations homosexuelles. C'est des jeunes guerriers qui eurent de telles relations avec les shoguns ou avec les daimyo purent avoir de hautes positions. Un romancier populaire au XVIIe siècle, Ihara Saikaku, dépeint souvent les amours entre guerriers dans ses multiples romans qui prennent pour thème les guerriers. Il en écrivit même en « Le Nanshoku Okagami », le grand miroir de l'amour masculin, exclusivement consacré à cela. Maintenant, il y a une illustration d'un roman de Nanshoku. Deux couples amoureux homosexuels devant le système d'amour perpétuel. Ces deux oiseaux avec les ailes connectées. Ensuite, une autre illustration. Si vous êtes moraliste rigoureuse, stricte, fermez les yeux, s'il vous plaît. C'est très obscène. C'est une illustration d'une encyclopédie de la sexualité publiée en 1686. Les expressions très vulgaires. Il existe un ouvrage célèbre illustrant la voix des guerriers, le Hagakure. C'est un recueil de propos de guerriers rapporté par Yamamoto Tsunetomo au début du XVIIIe siècle. Dans ce livre, il est dit « Ne pas avoir d'amoureux alors qu'on porte encore la coiffure enfantine et d'une solitude pareille à la femme sans époux. Ainsi, un jeune garçon devait avoir un amoureux plus âgé. » On ignore quel est le pourcentage de guerriers qui eurent ces pratiques. Mais il est certain qu'elles étaient considérées comme dignes d'eux. Dans le Mimibukuro, par Negishi Shizue, il y a un recueil de mémoires de Ishikawa Jikan, un samouraï, né en 1703, on trouve le passage suivant. Par ailleurs, si on compare les jeunes garçons d'hier et d'aujourd'hui, ils sont en tout point différents. Quand j'étais jeune, l'amour entre hommes était fréquent. Les vassaux de haut rang du shogun et les daimyo employaient de jeunes garçons au beau visage. J'en fus un moi-même. J'ai servi le clan Tsuchiya alors que ma famille n'était pas vassale. Le déclin de ces relations homosexuelles fut considéré comme une perte des valeurs guerrières. Un savant du nom de Matsuzaki Kanran, qui était né en 1682, écrit « La société change selon les époques. Depuis le début du règne de Tokugawa, il n'y avait pas de grand seigneur qui n'employât pas à son service 5 ou 10 garçons. Il en était de même pour les vassaux du shogun de haut rang. Mais cette pratique s'est arrêtée soudainement et on ne s'attend pas à la voir aujourd'hui, car tout le monde est infecté par l'amour des femmes. » Jusqu'au XVIIe siècle, les guerriers étaient pleins de vigueur et aimaient les relations homosexuelles. C'est pourquoi les daimyo et les vassaux de haut rang de shogun avaient des pages. Les disparitions de ceux-ci impliquent que les guerriers n'étaient plus de guerriers, et qu'ils aimaient les femmes. Qu'est-ce que cela signifie? Les guerriers étaient trop imbus de leur virilité et méprisaient trop les femmes. Faire la cour à une femme impliquait d'une manière ou d'une autre de suivre et se soumettre à son sentiment. Cela était ressenti comme une menace pour l'homme, une honte. Dans un essai de début du XVIIIe siècle, il est écrit « Que le partenaire soit une épouse, une prostituée ou une magnifique veuve, un homme séduit par les femmes a un problème au fond de son cœur, même s'il n'en dit rien. De tels sentiments envers les femmes doivent être réprimés. Ils transparaissaient dans l'expression du visage et l'attitude et tous les incidents dont se plaignent les gens et qui peuvent entraîner des torts à soi-même proviennent tous des histoires avec une femme. Ça qui s'adonne exclusivement à l'amour entre hommes sont des gens fiables, qui connaissaient la voie des guerriers. Ils ne troublent pas les rites et ne cherchent jamais à se faire aimer des femmes. » Dans un autre ouvrage de la moitié du XVIIIe siècle, discutant les amours homosexuels des guerriers, il était écrit « L'amour entre hommes est la marque d'un vrai guerrier. Il arrive souvent qu'on tue, le concours en amour si on ne se sent pas en mesure de l'emporter. Si cela est pour vous un poids insupportable, il vaut mieux abandonner le statut de guerrier et, comme tous les faibles, avoir une relation avec une femme et se laisser aller à cause d'elle. Si on est un vrai homme, on reste entre hommes. Si on est un mâle, on n'entretient pas de relation avec une femme. Voilà à quoi revenait cette attitude. Une communauté d'hommes. Un vrai macho devait avoir des relations homosexuelles. Ainsi, dire de quelqu'un « il et les femmes » était élogieux. L'amour de femme, sauf l'amour envers les prostituées, était considéré comme une marque de faiblesse. Mais s'il s'agissait d'amour entre hommes, il n'y avait nulle attente à la fierté. S'aimer dignement entre hommes forts, en ignorant les femmes, telle était la question. C'était un mépris extrême envers les femmes. On était homosexuel parce qu'homosocial. Yves Krofsky-Sedgwick écrit dans son ouvrage Between Men, English Literature and Male Homosexual Desire que les couches dominantes homosociales, monopolisées par des hommes, faisaient preuve d'homophobie pour maintenir leur système. Le Japon de Tokugawa se montre différent sur ce point. C'est parce qu'il maintient en avant la virilité à l'extrême qu'ils étaient culturellement bisexuels. Chez les chevaliers européens, existait la vénération de la femme, du moins celle de reine et de noble. Même Don Quichotte, ivre des écrits de chevalerie, avait une femme qui le vénérait. Dans la continuité de cette tradition, ce qu'on appelle un gentleman se montre respectueux des femmes. C'est par fierté qu'il a fait grand cas des femmes. Telle est la virilité perçue en Europe. Mais chez les guerriers japonais, c'est l'inverse. En bref, la stabilité des régimes du Tokugawa reposait sur le désir de la situation suivante, que les guerriers gouvernent comme une communauté armée, courageuse et excellente dans les armes. Les femmes les reconnaissent comme les meilleures des mâles et sont séduites par eux. Connaissant cet intérêt pour eux, les hommes n'y prêtent pas attention. Ils ne se laissent pas aveugler par les femmes. Ils leur préfèrent l'amitié, l'union et l'amour entre hommes. Ils prennent femme pour assurer la perpétuité des foyers et avoir des enfants. Ils méprisent les hommes qui sont dans autre statut et ne sont pas virils comme eux. Voilà l'ordre sexuel le plus stable que pouvaient imaginer les guerriers. Mais le maintenant de la paix finit par affaiblir le courage guerrier. Le développement de l'économie de marche appauvrit les guerriers. Ils n'étaient plus considérés comme forts, mais comme faibles. Les guerriers perdirent peu à peu leur fierté. L'ordre d'écurie plus haut fut remis en question. Et l'instar des paysans et des marchands, ils préfèrent les femmes aux hommes. Cela signifiait l'affaiblissement même du régime des Tokugawa. Pour les Japonais de l'ère Tokugawa, les relations sexuelles n'étaient pas en soi un crime. Il n'existait pas, comme dans le christianisme, d'animosité ou de diabolisation du sexe, encore moins de détestation de la chair. Le bouddhisme n'exerça, pour sa part, quasi aucune influence sur ce plan. Les strictes normes morales confucéennes n'avaient pas davantage imprégné la société japonaise. La libération sexuelle que connaît l'Occident au XXe siècle était déjà en partie courante au Japon de cette époque. En premier lieu, il y avait peu de volonté d'éviter, de honnir ou de se plaindre de ce qu'on avait vu ou entendu sur le plan sexuel. Il n'était pas interdit de raconter, de dessiner ou de voir des actes sexuels. Pour les Japonais de l'ère Tokugawa, les actes sexuels n'avaient pas nécessairement une visée reproductrice, mais étaient plutôt considérés comme un amusement, un jeu et une plaisanterie. Des images et des livres pornographiques furent produits en masse, mais ils étaient appelés livres d'humeur ou images pour rire. Certainement, les postures des rapports sexuels sont très drôles, n'est-ce pas? Le nombre de publications oscille entre les 2000 et les 3000. En ce qui concerne les ukiyo-e, célèbres pour leur influence sur les impressionnistes comme Claude Monet, les images les plus nombreuses étaient davantage celles relevant de la pornographie que les images de belles femmes ou de paysages. Beaucoup de grands maîtres des ukiyo-e dessinaient des images pornographiques. À l'époque pré-industrielle, le Japon était sans doute unique dans le monde par les descriptions crues, l'exubérance de style et la quantité de production pornographique. Ce sont relativement modérés. À ce propos, il y a eu de 2013 à 2014 au British Museum de Londres une exposition consacrée à la pornographie au Japon intitulée Shunga, Sex and Pleasure in Japanese Art. Ces productions étaient vendus en public dans les magasins ou encore étaient l'objet de cadeaux de remerciement. Un diplomate anglais de passage au Japon à la fin de l'ère Tokugawa raconte, comme suit, son expérience d'un repas et d'un verre de saké pris avec des guerriers. One of them got very tight and began to talk things unfit for the ears of boys or maidens, while another produced a packet of indecent pictures, which he generously distributed among four of us. La pornographie était un outil amusant de sociabilité. Les guerriers de haut rang y avaient aussi recours au scandale des gentlemen anglais de l'ère victorienne. Les femmes regardaient aussi de la pornographie. Elles représentaient un moyen d'éducation sexuelle. En second lieu, le Japon de l'ère Tokugawa connaissait un taux élevé de divorces. À la fin de cette époque, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, lorsque les Japonais commencèrent à limiter la civilisation européenne, la fréquence de divorce à raison de 3,39 cas par 1000 personnes fut avancée comme preuve que le Japon n'était pas civilisé. Le taux de divorce plutôt dans l'ère Tokugawa était sans doute encore plus élevé. Non seulement les hommes, mais les femmes aussi étaient à l'origine de divorces et de mariages, de nouveaux divorces et de remariages. L'enquête minutieuse des généalogies de famille de cette époque par les historiens montre que, même chez les guerriers de très haut rang, la moitié des femmes divorcées ou qui devenues veuves se remariaient. Cela signifie que la virginité, ou non de la mariée, n'était pas en question. Il est facile d'imaginer l'impact que cela devait avoir sur les attitudes des jeunes filles. À la fin de l'ère Tokugawa, Townsend Harris, premier consul envoyé pour les États-Unis d'Amérique, rapporte dans son journal, « I then inquired what a man did when he married a female who was supposed to be a virgin, but on consummation, on the first night, he found she was not one. Nothing, replied the vice governor. What can he do? And then naively added, I was once served in that way myself. But what could I do? It was not my fault. Ce n'est pas ma faute. Un médecin originaire de région de Iyo écrit en 1841. Dans mon Iyo natal, il y a de prostituées d'aucune sorte. En revanche, les jeunes filles non mariées, les servantes, les veuves et les femmes mûres ont facilement des relations sexuelles. Mais comme cela ne relève pas de la prostitution, elles ne cèdent pas à un homme qui ne soit pas de leur goût. Un homme né à la fin de l'époque Tokugawa, devenu plus tard chrétien et missionnaire, critique de la manière suivante les murs de sa religion natale. Les hommes et les femmes de ma religion natale s'adonnent à de nombreuses coucheries en dehors du mariage. Quand ils deviennent adultes, ils reçoivent une initiation sexuelle. Avec lui, les jeunes garçons deviennent des hommes et les jeunes filles des femmes. Ils appellent le partenaire responsable de l'initiation mon bienfaiteur, ma bienfaitrice. Par la suite, ils font l'amour suivant leur goût. Hommes comme femmes changent de partenaire comme bon leur semble. Il arrive souvent que des jeunes filles soient enceintes avant le mariage. Elles disent alors qu'une maladie de l'appareil digestif leur a fait gonfler le ventre et qu'à un moment, celui-ci est redevenu normal. Dans une société où telle chose était possible, une femme qui s'était prostituée pouvait tout à fait se marier avec l'un de ses clients. Troisièmement, les Japonais de l'ère Tokugawa n'avaient pas une conscience forte d'un interdit de relation sexuelle entre un homme et une femme. On se soit par rapport aux femmes comme aux hommes. Par exemple, on qualifiait de sortie privée, mitsu, les rapports sexuels qu'une épouse pouvait avoir avec un autre homme que son mari. Bien entendu, cela était déconsidéré moralement. Cela était même accompagné de pénalités. Il y eut même des exemples de châtiments sévère. Néanmoins, dans le cas des guerriers, lorsque l'infidélité d'une épouse était connue, il était possible que le mari soit l'objet de plaisanteries. Comme les guerriers étaient fiers, ils détestaient être l'objet de moqueries. L'attitude la plus sage consistait à prétexter n'importe quelle raison pour rompre les liens et renvoyer dans sa famille l'épouse infidèle. Comme les divorces étaient nombreux, cela ne posait pas particulièrement problème. Un guerrier écrit la chose suivante. Il peut arriver qu'on porte plainte pour l'infidélité de son épouse, mais que ce soit le mari ou le partenaire de l'épouse, mais lors du jugement, il est difficile d'établir clairement le fautif. C'est pourquoi, même si cela peut avoir une conséquence sur le statut des intéressés, il est rare que cela soit porté en justice. On peut voir là qu'il était probablement considéré honteux de se fâcher à cause d'une femme et de susciter la moquerie. Qu'en était-il en dehors des guerriers? Dans ce cas, il était usuel de régler l'enfer sans châtiment, par discussion entre les intéressés. En convenant d'un dédommagement financier qui variait entre 3,5 et 5 réaux, c'est-à-dire environ entre 2600 et 3700 euros. Après ce règlement, certains divorçaient de leur épouse, d'autres poursuivaient leur vie maritale. Le livre que nous venons de citer dit à sujet sur le ton de la plainte. Il est courant aujourd'hui que les épouses et les concubines soient infidèles, entretiennent des relations qu'elles ne devraient pas avoir, se volent mutuellement les partenaires, laissant libre cours à leurs désirs, elles trompent hommes comme femmes. Il existe même des exemples de plaintes au sujet des hommes devant une telle situation. En preuve dit, un homme qui n'a pas fait l'amour à 7 femmes mariées n'est pas un homme. De quand date-t-il? Un homme ne saurait faire cela. Même aujourd'hui, les hommes japonais sont plutôt cléments envers l'infidélité de leur épouse. Il existe d'ailleurs une enquête intéressante sur la jalousie éprouvée par le mari envers l'infidélité de son épouse, dans laquelle le Japon se distingue des autres pays. Professeur Hasegawa Toshikazu de l'Université de Tokyo et sa femme, professeur Hasegawa Mariko, présentent dans le résultat de leurs recherches menée avec des professeurs de l'Université de Texas aux États-Unis dans Évolution et action humaine. Entre l'infidélité morale et l'infidélité charnelle, les États-Unis et la Corée du Sud connaissent une différence nette entre hommes et femmes. Les hommes privilégiés l'infidélité charnelle, alors que les femmes privilégient l'infidélité amoureuse. Mais au Japon, les hommes comme les femmes donnent plus d'importance à l'infidélité amoureuse qu'à l'infidélité charnelle. Les hommes n'éprouvent pas de jalousie tant que leur épouse, ayant des relations sexuelles avec un autre homme, n'aime pas réellement celui-ci. Qu'en est-il chez les hommes français? Je ne sais pas. C'est un ukiyo-e d'un couple amoureux. Comment les femmes ont-elles été idéalisées dans le Japon de Tokugawa? Tout d'abord, toute femme était censée se marier. Trois mariages sur quatre voyaient l'épouse intégrer la demeure du mari. Mais pour le cœur restant, c'était le mari qui entrait dans le foyer de l'épouse. Dans une famille dépourvue de fils, le mari entrant par mariage remplaçait le fils absent et perpétuait ainsi la gestion du foyer. Le mari perdait alors son nom de famille et prenait celui de l'épouse. De tels maris adoptés étaient nombreux chez les guerriers, y compris les grands seigneurs, que dans le reste de la population. Dans le cas d'une épouse entrant dans le foyer du mari, il y avait cohabitation avec les parents de celle-ci. Si c'était le mari, le couple cohabitait avec les parents de l'épouse. On gérait les activités marchandes si la famille était marchande, paysanne si c'était des paysans. Les beaux-parents et le couple coopéraient ensemble dans l'activité familiale. La bonne gestion des affaires familiales n'était pas entravée par les relations au sein du couple ou bien entre le couple et les beaux-parents. Comme nous l'avons montré plus haut, les possibilités de divorce étaient constantes. Il y a même des exemples de contrats de mariage ou prédommagement pécuniaire en cas de divorce était fixé à l'avance. Il était aussi difficile pour une épouse d'ignorer l'opinion de son mari que l'inverse. C'est particulièrement le cas dans les mariages où l'époux intégrait la famille de sa femme. En 1726, il était ainsi écrit dans un manuel de morale à destination du grand public. Quand on accueille la belle-fille, quelle que soit sa beauté, il convient de connaître son caractère ainsi que les habitudes de ses parents et après seulement l'accepter chez soi. Les épouses d'un plus haut rang que soi et venaient de familles riches sont habituées aux mets et aux objets du quotidien relatifs à son rang et ne serait donc pas satisfait de leur sort chez l'époux. Même si elle arrive à apprécier la famille de son époux, au bout de quelques années, la situation de la famille serait en danger du fait des dépenses exagérées que l'épouse ferait ou encore des cadeaux qu'elle ferait selon les usages. Sa dot disparaîtrait en très peu de temps. Et si elle divorçait, la famille de l'époux devrait vendre ses terres pour payer les dédommagements, tombant ainsi dans une situation pire qu'avant le mariage. En revanche, une épouse venant d'un rang moins élevé que soi et d'une famille plus pauvre n'éprouvera aucune insatisfaction, se montrera aimable et s'efforça d'avoir de bonnes relations avec sa belle famille. Celle-ci prospérera. Ce manuel explique ainsi souvent la nécessité pour le bien de la famille d'avoir de bonnes relations entre époux et d'être unis. Comme le montrent les principes affichés ci-dessus, il est attendu et apprécié de l'épouse qu'elle contribue activement en entreprise familiale, qu'elle ait de bonnes relations avec son mari et ses beaux-parents. Quel que fût le statut social dans le Japon de Tokugawa, toutes les femmes étaient censées agir ainsi. Une femme devait faire preuve de haïkyo, c'est-à-dire d'amabilité, d'affection et de gentillesse. Par exemple, dans les Onnajitsugokyo de 1695, manuel de morale pour femmes, il est écrit. Une femme sans aikyo n'est pas différente de pierre et d'arbre. Aikyo no naki onna wa ishi ya kare ki no gotoshi. En préface du Onna Chōhōki, publié tout au long de l'ère Tokugawa, se trouve le waka, poème de 31 syllabes suivant. Quel que soit le statut ou le rang, le cœur d'une femme doit être affectueux. Shinakatachi tsukasa kurai wa kawaru to, onna bakari wa mina yasashikare. Même dans la Dan d'aujourd'hui, un proverbe dit « L'homme, c'est le courage, la femme, c'est l'amour. » Otoko wa dokyo, onna wa aikyo. Ainsi, au Japon, un homme digne de ce nom ne doit pas être plein de vertus, à la différence de la Chine confuciane. Les vrais hommes sont des guerriers. La classe dominante est pleine de courage. C'est pourquoi le proverbe dit « L'homme, c'est le courage. » Une vraie femme se situe, elle, à l'opposé. Ce qui compte chez elle n'est pas la sévère chasteté confucéenne, mais la séduction, une prévenance et une gentillesse qui s'adresse à chacun. Une femme est constamment sollicitée pour avoir toujours le sourire, être gaie et attirer à elle la sympathie. Une jeune femme poursuivre de ses qualités est populaire et attire les propositions de mariage. Des femmes animantes, il y a un ici et encore là. Dans un roman, une entremetteuse présente ainsi une candidate au mariage. C'est une femme de 22 ans, dont la beauté surpasse 100 femmes, bien élevée par ses parents. Sa peau est blanche, la forme de son visage est agréable, elle déborde d'amour. Quand elle sourit, des fossettes se dessinent sur son visage. Elle n'a pas le moindre défaut. Ces mots d'amour et d'affection incluent les sentiments entre homme et une femme, ainsi que la bonne entente entre époux. Il est attendu des femmes qu'elles s'occupent de maintenir la bonne entente de foyer de manière active et coopérative. Au sein de l'expression anglaise du 19e siècle, une « virtuous woman » serait une femme chaste. Mais dans le Japon de Tokugawa, une femme doit faire preuve de gentillesse et d'attention, quel que soit son statut, et non de chasteté. Comme je l'ai dit, il était attendu de l'époque comme de l'époux des relations maritales bonnes et unies. Néanmoins, dans un rapport de force déséquilibré, c'était évidemment à la partie faible de faire preuve de coopération supplémentaire, quitte à prendre sur soi. Et c'était à la femme plutôt que le mari d'éviter d'un éventuel divorce, elle qui avait plus à y perdre. Un remariage était toujours possible, mais se faire répudier par son mari n'était pas bien vu. Même sa propre famille ne pouvait s'en réjouir. Par conséquent, pour qu'elle ne soit ignorée, détestée ou abandonnée par le maître du foyer, les femmes devaient redoubler d'efforts. Même si elles devaient subir parfois des violences physiques, elles devaient flatter et amadouer. Quand on agit pour se faire aimer des gens, on obtient leur sympathie. Il faut penser à autrui. Les femmes ont été entraînées à cela depuis leur tendre enfance. Ceux qui s'intéressent à l'histoire japonaise ont peut-être entendu le manuel de morale pour femmes, Onna Daimaku, le grand d'étude des femmes. On y explique comment se faire aimer du mari et des beaux-parents. L'influence confucéenne y apparaît et l'ouvrage encourage à l'humilité. Mais ce qu'il faut remarquer est que cet ouvrage a été lu comme un manuel pour jeunes filles auquel étaient attachées diverses anecdotes sous le titre « Trésor de la grande étude des femmes » (Onna-daigaku Takarabako). Il fut un best-seller tout au long de l'époque Tokugawa. Regardez à l'écran. Paysans. En dehors du texte principal, on trouve dans ce livre des portraits de mères enseignant l'écriture aux enfants, ou des femmes s'adonnant à de multiples travaux et métiers. On enseignait ainsi aux petites filles à avoir un métier qui leur assure de l'avenir. Enseignant de lettres. Working women in various métiers. On trouve également dans l'ouvrage de présentation imagée de Didu Genji, Genji Monogatari, le fameux roman fleuve écrit par une dame de la cour du XIe siècle. Ce roman dépeint d'ailleurs les complexes histoires d'amour à la cour impériale. On peut penser qu'il était attendu des jeunes filles qu'elles en tirent des leçons. En outre, l'ouvrage comprend aussi une anthologie de waka intitulé « Hyakunin Ishu », qui rassemble un waka de 100 poètes. À peu près tous sont des poèmes d'amour. À l'époque Tokugawa, il était fondamental pour les femmes, en particulier, de retenir par cœur ces 100 poèmes. En connaissant l'amour et comprenant les sentiments, on peut aimer les hommes. Cela était particulièrement attendu des femmes. Certains parmi vous pensent peut-être que dans l'Asie prémoderne, les femmes étaient, plus qu'en Europe, obligées de se plier aux caprices des hommes et à une chasteté sévère. Ce n'est pas vrai. Il est certain que même dans le Japon de Tokugawa, on pensait en général que la vie d'une femme valait moins que celle d'un homme. Mais ce n'est pas pour autant que les femmes de l'ère Tokugawa devaient servir toute leur vie en seul homme, sans connaître l'amour. Elles ne restaient pas non plus enfermées chez elles. Elles n'ont pas davantage subi des services et subi des sévices physiques artificiels comme les pieds bandés en Chine. Au contraire, dans le Japon de Tokugawa, les discours, les images, la musique et la scène regorgeaient la référence au sexe. Les hommes comme les femmes y avaient accès et s'en amusaient. Pour vivre heureux et stable dans ce monde-là, les femmes devaient faire sans cesse des efforts pour se faire aimer de son entourage. Était-ce vraiment un plaisir pour elle? Je pense que cela comportait une part de pression. La pression d'être toujours aimable. Les femmes japonaises ne sont-elles pas aujourd'hui encore sujettes à cette pression sociale? Telle est mon observation. Je vous remercie de votre attention. Merci.